philosophie de l'art par le père Philippe Saint-Joseph, le 23 janvier 85.
Nous allons continuer d'entrer un peu dans ce que représente l'inspiration au niveau de la connaissance poétique. Et à partir de là, on pourra mieux comprendre les divers analogués de l'inspiration. Je vous disais qu'il fallait d'abord regarder ce que les philosophes disent de l'inspiration. Je vous ai lu ce grand passage de Nietzsche. On pourrait compléter ceux qui s'intéressent à ça, et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire tout un traité de l'inspiration au point de vue poétique et au point de vue philosophique, pour arriver en dernier lieu à l'inspiration divine. Nous allons maintenant regarder, si vous voulez, les caractères de l'inspiration selon le témoignage des artistes eux-mêmes. C'est toujours intéressant. Évidemment, il y a des artistes qui ne parlent pas du tout de l'inspiration. Et ordinairement, ils n'aiment pas d'en parler. Presque toujours comme ça. Mais ceux qui sont plus proches du point de vue littéraire, ou des gens comme Valéry, qui aiment d'analyser, alors eux en parlent. Mais il y a toute une série d'artistes, demandez aux peintres, ils rigoleront au nez, ils vous renverront promener. C'est très curieux, du reste, c'est très intéressant de voir ça. Il y a certains arts où on ne veut pas parler de l'inspiration. Il y en a qui rejettent l'inspiration en disant qu'il n'y a pas l'inspiration, il n'y a que le métier. Ça, c'est le métier qui fait le bonhomme. On comprend. Il ne faut pas opposer inspiration et métier. Nous faisons une analyse philosophique et nous essayons de découvrir une source. Et je crois que cette répulsion qu'on a de parler de l'inspiration, c'est parce que c'est une source. Alors, une source, c'est secret. Et au fond, dès qu'on parle de l'inspiration, ce n'est plus l'inspiration. C'est sûr, ça. Parler de l'inspiration, ce n'est pas l'inspiration. L'inspiration est autre chose que ce qu'on dit de l'inspiration. Et pourtant, on doit pouvoir préciser philosophiquement ce que représente ce type de connaissance qui est source. Et je crois que c'est très important pour comprendre ce qu'est la connaissance humaine. Alors c'est ça qui intéresse le philosophe. Qu'est-ce que c'est que la connaissance humaine? Quand vous ramenez toute la connaissance humaine à la connaissance scientifique, à la logique, vous comprenez qu'il y a des quantités de choses que vous ne comprenez rien du tout. Même quand vous la ramenez à la connaissance métaphysique. Mais la connaissance philosophique, si elle est vraiment philosophique, ne peut pas se taire sur l'inspiration. Parce que l'inspiration va faire comprendre comment tout un développement philosophique et l'idéalisme, toutes les philosophies plus à tendance artistique, voyez Platon, Bergson, Heidegger, ça ne peut se comprendre que si on voit derrière le point de vue de l'inspiration. Et Parménide, ça, c'est net. On ne peut pas comprendre Parménide si on ne voit pas ce que c'est que l'inspiration. Il parlera de révélation, ça revient au même. Au point de vue philosophique, toute inspiration est une révélation. Et au point de vue philosophique, toute révélation est une inspiration. Ce ne sera qu'au point de vue divin, le théologien qui fera la distinction. En disant, la révélation que vous avez, est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est une inspiration humaine ou divine? Et constamment, on doit faire le discernement. Quand vous dites que dans votre raison, vous avez une inspiration prodigieuse, merveilleuse, qui vous a illuminé pendant une demi-heure, heureusement que ça ne se voyait pas à l'extérieur, n'est-ce pas, mais qui vous a illuminé pendant une demi-heure, vous étiez sous le brasier divin, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit, directement? Est-ce que c'est votre imagination ou c'est le Saint-Esprit? Ordinairement, c'est le concours des deux. Il y a du Saint-Esprit et il y a de vous. Et quand on a une très grande imagination, à la manière de Suzeau, à la manière des Rénans, c'est très curieux, les Rénans ont toujours un peu comme ça, ils ont quelque chose de particulier. Et Suzeau, il faut lire du Suzeau de temps en temps, c'est extraordinaire. On voit le côté mystique et le côté inspiration, où il y a une orchestration imaginaire. Quelqu'un qui dit qu'il voit la Sainte Vierge, et il n'y a rien à l'extérieur, mais il voit la Sainte Vierge. Pas commode de savoir si la voit selon une inspiration poétique extraordinairement forte, où il y a un petit pouce du Saint-Esprit, mais l'orchestration est très poétique. Ou est-ce que c'est vraiment la Sainte Vierge qui apparaît divinement, très difficile. Très, très difficile. J'en ai parlé une fois à un théologien qui est le théologien du pape, vous savez, le cardinal Chiappi, qui est un dominicain, que j'aime beaucoup, du reste, qui est un homme merveilleux, un homme très spirituel. Et c'est intéressant parce qu'il a, beaucoup traité ces questions-là, il les a beaucoup cherchées. Mais il me dit, c'est très difficile parce que quand on vous donne un texte comme étant révélé venant de la Sainte Vierge, et que ce texte, on pourrait très bien, un spirituel, l'écrire, sans aucune intervention particulière d'une inspiration. Alors vous voyez comme c'est difficile. Parce que la très Sainte Vierge pourrait très bien aussi apparaître sans dire des choses très extraordinaires. Quand elle dit évidemment à la petite Bernadette, hein, je suis l'Immaculée Conception, ça c'est signé. Puisque la petite Bernadette ne savait même pas ce que ça voulait dire. Quand la très Sainte Vierge parle un latin extraordinairement correct vis-à-vis de quelqu'un qui ne sait pas du tout le latin, est-ce que ça vient nécessairement de la Sainte Vierge ou est-ce que le démon peut faire des trucs semblables? Le démon, il sait le latin. il faut pas croire qu'il ne le connaît pas. Il sait l'hébreu, il sait le grec, il sait toutes les langues. Alors, très difficile pour quelqu'un de dire, ah, il parle une langue qu'il ne connaît pas. Ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est du préternaturel. Est-ce que c'est du surnaturel? Mais alors, c'est toute cette question de l'inspiration, c'est ça que je crois qu'il est bon pour nous d'essayer de travailler. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Alors, regardons d'abord ici quelques textes que je vous cite. Hein. Je vous dis, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et il y en a peut-être qui sont encore plus nets que ceux que j'ai cités là. Hein. C'est pas exhaustif, ça. Parce qu'on ne peut jamais, dans ce domaine-là, lire tous les poètes, tous les... pour reconnaître. Et puis, on les a lus à un moment... Faisait pas attention à ça. Alors, tout recommencer à lire, c'est difficile. C'est vrai, parce qu'il faut chercher, quand on lit quelqu'un, quand on lit un poète aussi bien que du saint Thomas, vous êtes attentif à ce que vous cherchez. Si vous ne cherchez rien, vous laissez prendre, c'est évident. Mais les choses n'apparaissent pas de la même façon. Si l'artiste définit jamais cet état infiniment précieux, quelle inspiration, il en précise pourtant certaines notes dominantes, il en donne même des descriptions, certains artistes. L'inspiration apparaît comme une attente. Alors je vais vous donner toute une série de choses, je le lis parce que c'est faut le trouver, hein. Vous pourrez le retrouver après parce que c'est déjà... Mais c'est intéressant de voir ça. C'est une attente. Voici comment Valérie décrit ce moment particulier d'inspiration. Donc Valérie a ce caractère spécial, c'est qu'il sent les choses avec beaucoup d'acuité et il sait les dire, ce qui est assez remarquable. Et il les analyse avec beaucoup de précision. Esprit, attente pure, éternel suspens, menace de tout ce que je désire, épée, glaive, hein, qui peut jaillir d'un nuage, combien je ressens l'imminence. Une idée inconnue est encore dans le pli et le souci de mon front. Je suis encore distinct de toute pensée, également éloigné de tous les mots, de toutes les formes qui sont en moi. Mon œil fixé reflète un objet sans vie. Mon oreille n'entend point ce qu'elle entend. Ô ma présence sans visage, quel regard que ton regard sans chose et sans personne. Quelle puissance que cette puissance indéfinissable comme la puissance qui est dans l'air avant l'orage. Je ne sais ce qui se prépare. Je suis amour et soif et point de nom. Car il n'y a pas d'homme dans l'homme et point de mot dans le mot. Mais il y aura un acte sans être. Ça, c'est quand il fait de la métaphysique, c'est excellent. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est très bon. Mais c'est, on voit très bien ce que ça veut dire. Hein? Vous voyez bien, il tourne autour puisqu'il faut exprimer quelque chose qui est indéfinissable. Une source. C'est pas un concept. Hein. C'est une source. Il faut préciser. On essaiera, au plan philosophique, de voir ce que c'est. Mais je crois qu'il faut essayer de comprendre. Parce que quelqu'un comme Valérie, pour dire des choses comme ça, Valérie, hein, c'est pas un imbécile. Donc quand il tourne comme ça autour, il veut essayer de saisir quelque chose qui ne peut pas se définir. C'est vrai que nous définissons tout le temps. Nos mots ont toujours une signification. Quelque chose qui est avant. Vous voyez, c'est pour ça que l'image qu'il prend est assez belle, parce que je crois que c'est assez juste. Hein. Puissance indéfinissable comme la puissance qui est dans l'air avant l'orage. Ça, ça dit très très bien la chose. Une puissance qui est avant l'air. Les animaux sentent ça très bien. On voit quand un orage monte et que vous voyez des bovins, des moutons, c'est très, ils sentent. Il y a une espèce de moment d'immobilité. Il y a un moment d'immobilité. L'orage n'est pas encore, n'éclate pas, mais il monte. Et c'est ça qu'il veut montrer. Il y a un moment d'immobilité où tout est comme mobilisé, mais n'est pas encore défini. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment particulier. Il n'y a point d'homme dans l'homme. Point de mot, oui, point de moi dans le moi, mais il y aura un acte sans être, un effet sans cause, un accident qui est ma substance, l'événement qui n'a de figure ni de durée, attaque toute figure et toute durée. Il fait visible les invisibles. Il rend invisible et visible. Il consume ce qu'il attire. Il illumine ce qu'il brise. Me voici, je suis prêt. Frappe, me voici. L'œil secret fixé sur le point aveugle de mon attente. C'est là qu'un événement essentiel, quelquefois, éclate et me crée. Transposer, en faisant grande attention à ces transpositions, mais parce que ça c'est un passage que nous connaissons bien de l'écriture, et c'est un moment tellement important, l'épître de dimanche dernier, la vocation de Samuel, c'est dit admirablement, beaucoup mieux que Valérie, et c'est avant l'inspiration d'un prophète, puisque on assiste à la vocation d'un prophète. Quand même très extraordinaire. Alors, le prophète, c'est celui qui reçoit l'inspiration, une inspiration divine. Eh bien, on voit qu'avant, par trois fois, il y a une attente. Alors lui, brave petit bonhomme, hein, merveilleux que Samuel, devait être délicieux le petit Samuel, on voit sautant en bas de son lit, courant à toute vitesse, hein, par trois fois, et puis il s'en couche. Puis encore, puis il recommence. Et alors la sagesse du vieux prêtre,
Il y a quelque chose.
Oui, il y a quelque chose. Quoi ? On n'en sait rien. C'est extraordinaire, c'est très très difficile à préciser. C'est ce moment particulier. Alors ça, c'est dit à sa façon, on peut le dire plus ou moins bien. Donc l'inspiration, je crois que c'est vrai de dire que c'est une pure attente, un suspens pur de toute activité, de tout temps. Tout va renaître. Tout va renaître. C'est avant. Mais c'est aussi un effort sauvage pour atteindre jusqu'à la beauté d'en haut. Et ça, on peut le dire aussi que c'est un effort sauvage. Alors, il y aurait dans les lettres de Van Gogh, hein, dans les lettres de Van Gogh, il y a des choses tellement intéressantes. Parce que ça, c'est un peintre. D'habitude, il se taise, mais lui, comme il est tellement brûlé, il parle. De plus en plus, d'autres choses me quittent. Et plus elles me quittent, plus rapide devient mon regard pour voir le côté pictural. Alors, l'inspiration, si elle implique ou peut impliquer cet effort, c'est une tension, toute attente est une tension. C'est bien évident. C'est une tension, une attente. On peut voir le pôle de l'attente et il n'y a pas d'objet. C'est ça qui, je crois, est très important à noter. On va voir un type de connaissance sans objet. Alors ça démolit toute la scolastique. Mais la scolastique peut-être n'a pas saisi l'inspiration. Parce que d'habitude, une définition a toujours un objet. Or, l'inspiration, c'est justement une attente, et une attente dans l'ordre de l'esprit qui n'a pas d'objet. Vous voyez ? Et tout ce passage que je viens de vous lire de Valérie, c'est pour briser l'objet. Et c'est constamment comme ça que Heidegger lui-même essaie de montrer ce préconcept. Et pour Heidegger, je crois, l'inspiration, c'est « je pense l'être ». Très curieux. Penser l'être. Penser l'être, c'est l'inspiration de toute inspiration. C'est préconceptuel, ça n'a pas d'objet. C'est une attente, une pure attente, quelque chose qui est en même temps une tension. Donc, l'inspiration, si elle implique ou peut impliquer un effort, je crois qu'elle implique toujours un effort, une mobilisation interne. Mais une mobilisation interne qui se fait de l'intérieur sans du tout d'imperium, hein, comprenez bien. C'est à l'intérieur, c'est pas quelqu'un qui mobilise, non. On est mobilisé. N'en est pas moins considéré comme une grâce dont rien n'assure le poète ou l'artiste qu'elle lui sera donnée. C'est purement gratuite. Le propre de l'inspiration, c'est d'être purement gratuite. Il aimerait la posséder toujours. Mais c'est seulement par instant que quelque chose monte en lui du plus profond de lui-même. Une réalité poignante et invisible à laquelle son attention et son désir doivent permettre de surgir. Avant même que tu aies conscience, écrit Pierre-Emmanuel, Pierre-Emmanuel avait très fort le sens de l'inspiration, le symbole est un appel dans la nuit. Alors là, on va ramener, vous voyez, on dit pas d'objet, une attente. Et c'est vrai que l'inspiration, c'est bien une attente, mais une mobilisation, parce que il n'y a pas d'attente sans mobilisation, de toutes les forces et toutes les énergies. Oui, une béance, une attente. On est tendu vers, et on ne sait pas quoi. Un chien de chasse, il est tendu vers le gibier, il sait, et tout le monde le sait. Mais quand il n'y a pas justement de réalité présente, c'est une tension comme une pure attente. Alors, Ceci implique donc un effort, ça, on peut dire les deux. On peut dire cette gratuité. Alors on va lire maintenant ce passage qui est intéressant parce qu'il montre que toute connaissance qui va naître de l'inspiration est une connaissance symbolique. C'est très important de comprendre la naissance du symbole. Comment naît le symbole? Et qu'est-ce que ça correspond, la connaissance symbolique? D'où ça vient, la connaissance symbolique? C'est quand même très important. Alors, je crois que la connaissance symbolique, elle naît toujours à partir d'une inspiration. Je crois que c'est le propre de la connaissance symbolique. Et c'est le propre de l'inspiration de s'exprimer d'une façon symbolique. La logique est toujours une connaissance seconde, alors que la connaissance symbolique est une connaissance native, première. C'est le propre de la connaissance symbolique. Et on a très peu traité du symbole au point de vue de la philosophie réaliste. Vous voyez Ricoeur a beaucoup, beaucoup traité du symbole, du mythe, toutes ces choses-là, il les a beaucoup traitées. Et c'est très intéressant, du reste, de voir comment cette connaissance symbolique, cette connaissance du mythe, naît. Le symbole est un appel dans la nuit. Oui, toujours la nuit, pour bien montrer qu'il n'y a pas de détermination, c'est propre de la nuit, il n'y a plus d'objet dans la nuit. Il y a des présences sans objet, la nuit. Hein, quand vous avancez dans la nuit... Tout d'un coup, vous avez peur, vous ne voyez rien du tout, mais vous avez peur, vous ne savez pas pourquoi, c'est un frémissement. Alors, un symbole est un appel dans la nuit. C'est du reste très beau de dire ça. Il est ta propre nuit qui cherche à s'entendre, selon la parole du plus grand symboliste français. Il y a un instant, c'était le plein midi, la conscience diffuse, le conscient diffus, les clartés habituelles, une visible sécurité. Soudain, à fleur de jour, l'opaque bouge. Un verbe insaisissable approche ou fuit, issu de toi, s'y renfonçant, l'entraînant dans la nuit de l'air. Vous avez la nuit de l'être. Pour Aristote, la nuit de l'être, c'est les théologiens qui parlent de la nuit de l'être. C'est assez joli du reste. Alors, c'est intéressant de voir, quand on parle un langage symbolique, on parle de la nuit de l'être. Et à partir du néant apparaît l'être. Cela. Cela, cette réalité qui parle la nuit, qui profère le silence nocturne, viens à toi du plus profond de toi-même, et bien avant d'apparaître, donne de la voix. Étrange voix, pressentie plutôt qu'entendue, contraction angoissée du silence, état de celui qui ne sait ce qu'il veut dire, ni s'il le veut, mais cela veut se dire en lui. Ainsi, le messager, précédé de son cri, n'est d'abord qu'un frémissement de l'espace, comme un fragment de nuit plus dense. Il se détache par degrés de la nuit, forme vague, puis visage et corps. Encore pour que le messager t'atteigne, faut-il que tu prêtes l'oreille à sa voix, que ton attention s'orientant vers elle, l'origine, l'oriente. Ton qui-vive doit être l'aimant qui dirige le messager, qui fasse surgir des ténèbres l'invisible et poignante réalité qu'il représente, qui est en lui et pourtant est tout autre que lui. Jeune poète, es-tu cet aimant qui s'ignore, cette sentinelle en alerte qui sent le mutisme bouger? Cerné par l'ombre, tu as peur, mais ta peur est moins forte que ton désir, que que cette ombre vivante prenne forme. Ce qui est intéressant à noter, indépendamment de tout le jeu du symbolisme qui dit ça, c'est que vous voyez que ce qui est premier, c'est l'indétermination. C'est ça que j'essaie d'analyser au point de vue philosophique. Il faut lire ça philosophiquement. On peut le lire poétiquement et on peut le lire philosophiquement. Parce qu'il y a à penser là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de l'indétermination, apparaît le déterminé. Mais il y a un primat de la nuit. Alors est-ce que c'est propre? Vous voyez, on se posera la question au point de vue philosophique. Ensuite, c'est pour vous éveiller à toutes ces questions, il faut d'abord se les poser à partir. Vous voyez, c'est comme une espèce d'induction que nous faisons maintenant. Nous regardons le témoignage des poètes. Et on doit regarder le témoignage des poètes. Je n'ai pas le droit de parler de l'inspiration poétique sans être attentif à ce que les poètes eux-mêmes disent de l'inspiration. Je dois être attentif à ça. Autrement, je ne suis pas vraiment philosophe. Cet état de grâce en lequel l'homme a le privilège de n'être plus ce Dieu tombé des cieux qui s'en souvient avec un amer regret, mais de se sentir comme un Dieu ressuscité dans la gloire paradisiaque. Donc c'est Carouge qui souligne ça dans La mystique du surhomme. C'est un livre intéressant, hein, La mystique du surhomme. C'est un livre difficile à trouver, je ne sais pas si on l'a ici à la bibliothèque, mais de Michel Carouge, parce que c'est un livre à la fois poétique et philosophique, où Carouge a rassemblé des quantités de textes intéressants. Et dans La mystique du surhomme, c'est de montrer, justement, La mystique du surhomme, vous voyez bien, c'est Nietzsche, hein, mais de montrer comment cette mystique du surhomme veut le dépassement de la contradiction. C'est ça qui intéresse Carouge, hein. De montrer comment on est en présence d'un climat qui veut le dépassement de la contradiction. Ce qui est très juste, peut-être que Carouge dit quelquefois des choses qui ne sont pas tout à fait au point, mais c'est intéressant de voir ça, parce que le dépassement de la contradiction peut se faire par le sommet ou par le bas. L'être en puissance est au-delà de la contradiction. Alors, quand vous voyez tous ces textes qui montrent plutôt que de la nuit naît l'être, la nuit de l'être, hein, montrent comment je suis en présence des indéterminations, le symbole implique un halo indéterminé. Il implique une détermination, mais il a un halo indéterminé. C'est pour ça qu'il ne faut pas définir un symbole. Il y a un nœud, dans tout symbole, il y a un nœud, il y a une signification, mais il y a quelque chose d'autre. Et alors, c'est ça qui est très difficile à préciser, mais très important au point de vue philosophique, c'est qu'on est en face d'une connaissance qui commence par l'indétermination. Une indétermination affective, hein, comprenez bien, une indétermination poétique, appelez-la comme vous voulez, mais il y a une indétermination. Alors que toutes les autres connaissances commencent par une détermination. Vous voyez, quand nous faisons l'analyse au point de vue philosophique de l'appréhension et du jugement, nous voyons qu'avant le jugement, il y a une appréhension. Et l'appréhension, regarde le Totien Einhein. Comme on est loin de ça quand on regarde l'inspiration. Là, il y a comme deux pôles. Et si je veux regarder tout ce que c'est que la connaissance, je suis obligé de regarder ça. C'est la grande critique qu'on a fait à la scolastique, d'oublier complètement tout ça. Et c'est vrai, il faut accepter cette critique. Cette critique est vraie. On ne peut pas ramener la connaissance à la définition. Il y a encore des philosophes qui le font aujourd'hui. Toute la philosophie analytique fait ça. Mais justement, il ne faut pas entrer dans cette philosophie analytique qui définit. Pour lui, la connaissance, c'est la définition. On peut être dans l'ordre de la connaissance que quand on définit. Ah, pas du tout. voyez, la réaction contre le rationalisme poussé jusqu'au bout, c'est de découvrir qu'il y a quelque chose qui est antérieur au rationalisme et qu'on doit saisir. Alors, ce quelque chose qui est antérieur au rationalisme, antérieur à la définition, c'est bien l'inspiration. On est devant une connaissance, un type de connaissance qui ne commence pas du tout par la détermination. Alors, je ne dis pas que toute connaissance est comme ça, je dis qu'il y a un type de connaissance comme ça. Donc, le privilège de n'être plus ce Dieu tombé des cieux, qui s'en souvient avec un amer regret, mais de se sentir comme un Dieu ressuscité dans la gloire paradisiaque, implique une sorte d'extase, une sortie de soi. Mais une sortie de soi, pas du tout comme l'amour, hein. C'est ça qui est difficile à préciser. Elle apparaît aussi, en même temps, comme un voile qui brusquement se déchire. Quelque chose se dévoile, se donne à nous. Il y a un dévoilement, ça c'est vrai. Et quand Heidegger parle tout le temps du dévoilement, ça c'est un langage poétique d'inspiration. Le dévoilement. Nous, nous parlons d'abstraction. Et les poètes parlent de dévoilement. Dévoiler, révéler. C'est révéler. Révéler, c'est justement essayer de comprendre ce dévoilement, quelque chose qui au point de départ, est voilé, caché. Tandis qu'abstraire, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a peut-être quelque chose de commun entre les deux. Elle apparaît aussi en même temps donc comme un voile qui brusquement se déchire. Quelque chose se découvre, se donne à nous, à quoi nous accédons de plein pied et en quoi nous nous immergeons tout entier. On parlera de déflagration, d'explosion intelligible, pour exprimer ce dépassement vis-à-vis de nos connaissances ordinaires. L'artiste est alors d'une certaine, vit alors d'une certaine plénitude qui lui est donnée. Parlant des moments d'inspiration, Michel Carouge écrit encore, ces moments parfaits sont des pivots, les foyers vivants de la mystique, de la mythologie poétique. Ils sont les prémices de la Pentecôte poétique. Ils sont les moments où l'homme a l'impression de dépasser les bornes de sa psyché habituelle et de s'engager dans le supranaturel, ou préternaturel, mais il peut dire supranaturel ici, où paraît s'effectuer la synthèse tant désirée entre le songe et la veille. Et le philosophe sera, lui, très attentif entre le passage de celui qui dort et celui qui est éveillé. Là, on essaiera, au contraire, presque d'unir les deux. Y a-t-il quelque chose qui peut faire l'unité entre l'état de veille et le point de vue du sommeil? Qu'on ne veut pas toucher comme un inconscient. Quelque chose qui est là, l'état. Cette coupure entre acte et puissance que le philosophe fait nettement, c'est très désagréable pour le poète. C'est très très désagréable. Il y a quelque chose d'autre. Parce qu'en faisant cette coupure, vous brisez peut-être le principal. On voit très bien la réaction du poète. Ça, c'est très très net. Et c'est important de sentir cette réaction, parce que c'est une réaction d'une sensibilité poétique, c'est le duvet de l'intelligence. Hein. Il y a un duvet de l'intelligence, où l'intelligence a une chaleur non logique, et quelque chose qui est antérieur à la logique. L'artiste vit alors d'une certaine plénitude qui lui est donnée. Et alors c'est justement ce que Carouge essaie d'exprimer en disant « Ils sont les moments où l'homme a l'impression de dépasser les bornes de sa psyché habituelle et de s'engager dans le supranaturel, où paraît s'effectuer la synthèse, je ne dirais pas la synthèse, je dirais plutôt ce qui est antérieur à la distinction de la lumière et de la nuit. L'homme se sent sur le seuil d'un immense horizon de bonheur et de lucidité où il est libre de s'engager. Ce quelque chose, sans préciser. L'inspiration n'est-elle pas, comme certains le pensent, quelque chose de surnaturel, préternaturel, de religieux, de divin? Il y a quelque chose de divin. C'est ça que ça peut faire peur. Le sculpteur ne fait-il pas encore acte d'adoration, c'est cité, hein, c'est pas de moi, quand il découvre le caractère grandiose des formes qu'il étudie? Chose de sacré. Non, c'est sûr. L'art touche une zone de sacré. Et j'aimerais mieux presque de dire quelque chose de sacré. L'art est dans le sacré. Comment définir ce sacré? Comment définir une connaissance sacrée? Pas une sacrée connaissance, mais la connaissance sacrée. Vous voyez? Définir ce que ça représente, ce halo particulier d'une connaissance qui n'est pas encore, alors on dira préconceptuelle. Y a-t-il une connaissance préconceptuelle? Saint Thomas affirme pas de connaissance préconceptuelle. Ça, c'est très net pour Saint Thomas. Saint Thomas dit sans théologien. Est-ce que le philosophe ne doit-il pas essayer de voir s'il n'y a pas une connaissance préconceptuelle? Vous voyez, c'est la question qui se pose. Hein, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui, je vous dis, en face de Heidegger. Quand Heidegger dit ouvertement « penser l'être, c'est préconceptuel », il veut dire quelque chose. Je n'ai pas le droit de dire, non, ça rien, il y a un concept d'être. Donc, Heidegger a tort. Pas du tout, attention. Heidegger cherche. Il y a une connaître l'être, c'est préconceptuel. Alors, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit préconceptuel, parce que le concept, il a des significations très différentes chez les uns et chez les autres. C'est comme l'abstraction, ça prend des connaissances très différentes. Donc, il faut là encore être attentif. Donc, cet acte d'adoration, j'aimerais presque mieux de dire, de sacré, quand il découvre le caractère grandiose des formes qu'il étudie, et que du sein des lignes fugitives, il entreprend de dégager le type éternel de chaque être, de discerner au sein même de la divinité les modèles immuables d'après lesquels toutes les créatures sont pétries. Regardez par exemple les chefs-d'œuvre de la statuaire égyptienne, de la statuaire grecque, tout à fait au passage, hein, le passage de l'égyptien grec, ce moment très particulier, juste avant où apparaît le sourire grec. Il n'y a pas de sourire chez les égyptiens. Que pour les égyptiens, non, il n'y a pas de sourire. Le sourire est grec, hein, dans la statuaire, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce passage qui est extraordinaire, du reste, qui n'est qu'un moment. Et là, on sent très bien qu'il y a quelque chose de très spécial. Donc, les chefs-d'œuvre de la statuaire égyptienne, figure humaine ou animale, et dites si l'accentuation des contours essentiels ne produit pas l'effet troublant d'un hymne sacré. C'est Rodin qui dit ça, s'entend très bien. Baudelaire n'avait-il pas affirmé « Je préfère considérer cette condition anormale de l'esprit comme une véritable grâce, comme un miroir magique où l'homme est invité à se voir en beau, c'est-à-dire tel qu'il devrait et pourrait être. » Une espèce d'excitation angélique, un rappel à l'ordre sous une forme complimenteuse, c'est dans le poème de Warsinch, donc dans le goût et de l'infini. Alors, il y a quelque chose à saisir, cette espèce de moment, si vous voulez, privilégié, où on est avant la forme. C'est ça que je veux dire, hein, passage avant la forme. avant la naissance de la forme. La forme, on peut faire des analogies entre la forme et la détermination, mais quelque chose qui est antérieur. D'où va naître la forme ? Assister à la naissance de la forme. L'inspiration est aussi conçue comme un état d'ivresse lyrique. C'est dans les cinq grandes odes hein, de Claudel, ça. Il nous dit l'inspiration comme une invasion de l'ivresse poétique. Dialogue du poète avec la muse qui devient peu à peu la grâce. On voit très bien ce moment aussi, là encore, qui n'est qu'un moment. L'inspiration donc est conçue comme un état d'ivresse lyrique, d'exaltation rythmique, de délire intime. Cet état nouveau transfigure intérieurement l'artiste et lui ouvre le domaine de la création. La création, c'est autre chose, c'est antérieur à la création. Et la création ne pourra naître que s'il y a ça. Cet état nouveau, donc, transfigure intérieurement l'artiste. Tout est porté à l'intérieur. L'inspiration apparaît alors comme une sorte de rêve, un rêve brûlant, un son pur au milieu des bruits, un diamant au sein de la terre. Donc il y a quelque chose qui fait, encore une fois, c'est toujours l'attente. L'attente de la forme, un état qui ne peut pas se ramener uniquement à l'aspect de la forme. L'inspiration serait donc, quoi qu'en ait pu dire par ailleurs Valéry, un état assez voisin de celui du rêve, où, dans une sorte de confusion, images et idées affleurent à l'esprit, lui donnant le sentiment qu'il transcende ses propres limites. L'inspiration se manifeste en général chez moi par le sentiment que je suis partout à la fois, aussi bien dans l'espace que dans les diverses régions du cœur et de la pensée. L'état de poésie me vient alors d'une sorte de confusion où les idées et les images se mettent à vivre, abandonnent leur arête, soit pour faire des avances à d'autres images. Dans ce domaine tout voisin, rien n'est vraiment éloigné, soit pour subir de profondes métamorphoses qui les rendent méconnaissables. Cependant, pour l'esprit, mélange de rêves, les contraires n'existent plus, on est au-delà de la contradiction. Et c'est vrai, on est au-delà de la contradiction. L'affirmation et la négation deviennent une seule et même chose, et ainsi le passé et l'avenir, le désespoir et l'espérance, la folie et la raison, la mort et la vie. Le champ intérieur s'élève, il choisit les mots qui lui conviennent. Et j'assiste à tout cela en intervenant le moins possible, éprouvant en sourdine d'un même temps des éprouvant sourdine d'un même temps des impressions qui seraient opposées en temps ordinaire. Je vais à ma rencontre et me perds de vue. Je m'effraie et me rassure. Je me libère et m'embrasse. Je me fais vivre et je me tue. Je me donne l'illusion de sonder l'obscur dans un effort vers la lumière, pendant qu'affleurent à la surface du papier les images qui bourgeonnaient réclamant dans les profondeurs. Après, je sais un peu mieux où j'en suis de moi-même. J'ai créé de dangereuses puissances et je les ai exorcisées. J'en ai fait des alliés de ma raison la plus intérieure. En songeant à un art poétique, Superville. C'est essayer d'exprimer, vous voyez que je vous dis bien, quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. Bon, Valéry dit encore, pour essayer d'exprimer ce que c'est que l'inspiration, l'état chantant. c'est-à-dire l'état dans lequel l'être se sent dans une seconde phase d'énergie, libre, particulière, aussi différente de l'être à l'état ordinaire que l'est par exemple une corde tendue d'une corde lâche. Donc, l'attente, la tension. Une corde tendue, si vous l'ébranlez, produit un son. La corde lâche ne produit rien du tout. Il y a une sorte d'énergie qui s'empare de l'être et qui le fait capable de produire certaines choses qu'il ne produirait pas à l'état ordinaire. Et parmi ces choses, il en est une particulièrement significative, qui est ce que l'on peut appeler l'effusion rythmique, la propriété de se sentir producteur de rythme. Donc il y a quelque chose là, cet état chantant, la corde tendue, ça dit très bien la chose. Alors, Pierre-Emmanuel souligne que il y a quelque chose de particulier dans l'inspiration, c'est ce temps de solitude. Ceci avait déjà été dit par Mallarmé. J'ai besoin de la plus silencieuse solitude de l'âme et d'un oubli inconnu pour entendre chanter en moi certaines notes mystérieuses. C'est cette espèce de silence qui montre bien encore la nuit ou silence, vous voyez, ou la solitude, ou la corde tendue, toutes les expressions qui essaient d'exprimer quelque chose qui est antérieur à la production, antérieur à ce passage particulier. Aussi longtemps que nulle image n'apparaît,